Vous écoutez France Culture.
Fermez les yeux. Écoutez l'entrée de chaque son et leur interférence. Saison, 11e épisode. Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose une émission à double face. Face à Bribes sans abri, un essai radiophonique de Franck Larose, Aurélie Julia et Charles-Éric Béard. Face B, un nouveau portrait dans notre nouvelle série S'entretenir par Arnold Pasquier. Gare de Lyon, Paris, où se croisent des sédentaires en transit vers des destinations ensoleillées et des nomades sans domicile fixe qui s'y sont établis pour survivre. Ces SDF, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Pourquoi sont-ils là, qui semble n'être qu'un nulle part perpétuel, qu'un temps figé dans l'attente de ce qui semble ne plus pouvoir jamais advenir? Comment donner voix à ceux qui se confondent au silence, au-delà de la rumeur qui les baigne?
La création.
Atelier de création radiophonique. Bribes sans abri. Par Franck Larose, Aurélie Julia et Charles-Éric Péard.
messieurs, et donc bonsoir, hein, comme tous les soirs, tout le monde a pu le constater, à chaque fois que quelqu'un se met debout au milieu d'un wagon et se met à crier, c'est pas pour vous demander l'heure, ni pour vous la donner, ça serait, c'est pour vous solliciter. Et il n'y a pas 36 façons de le faire quand on est dans le besoin, on peut le faire en musique, la guitare, c'est pas dans mes cordes, les seules que je possède sont vocales, j'essaye de m'en servir. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de la République, mesdames, messieurs, l'ancienne et la nouvelle, bah oui, c'est comme ça. Dans le temps, c'était travail, famille, passé, mesdames, messieurs. Fallait aller au travail, fonder une famille, faire des enfants pour défendre la patrie. C'était comme ça, ça mugissait dans les campagnes. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on nous propose liberté, égalité, fraternité. Alors est-ce que la liberté, mesdames, messieurs, c'est plutôt la longueur de la corde qui nous revient à l'essentiel? Quant à l'égalité, pendant la fiche de paye du président et la mienne, je vous promets qu'on peut écraser le trou de la sécu. Alors moi, comme je suis cartésien, je compte sur la fraternité. J'ai besoin d'un coup de main, je vous l'attends. On la sert, on l'ignore. Et si on a quelque chose à glisser, j'ai le bienvenu et pas inutile. Alors bon week-end à tous et merci.
Lundi, tu vois, les gens, ils tirent la gueule le lundi. Le mardi, c'est un peu mieux. Mercredi, en principe, alors on est en vacances, mais mercredi, jour des enfants. Donc le ticket resto qu'on va te donner normalement à toi, bah les parents ils l'ont donné aux enfants pour aller au McDo le mercredi, tu vois, pour... Voilà. Les meilleurs jours, jeudi, et le meilleur le vendredi. Vendredi, dernier jour de la semaine, les gens savent qu'ils vont partir en week-end, voilà. C'est la royale, quoi. En un vendredi, tu peux faire ta semaine, quoi. Celui qui est courageux, hein. Tu fais 8 heures le vendredi, tu travailles pas la semaine. T'as ton hôtel de payer, mais c'est fastidieux, hein, se répéter. Mais voilà, moi c'est mes jours préférés, vendredi, mardi. Mes jours préférés.
Allez, une petite pour la route, mesdames, messieurs. Je voulais vous rassurer, tout le plaisir était pour moi, c'est rien. Ça fait une tâche, ça se nettoie. S'il a été partagé, je vous rassure encore, on fera deux mâchés. Allez, bon week-end.
Première catégorie, ce sont les gens qui font le tape-cul. On appelle ça le tape-cul parce qu'ils sont assis par terre avec un petit carton, une pièce s'il vous plaît, etc. De là, ils ne bougent pas beaucoup, c'est comme le vent tourne, ça vient. Ensuite, vous avez la rencontre, c'est-à-dire les gens qui vont à la rencontre, qui croisent les gens, bonjour monsieur, vous n'avez pas une petite pièce, tati, tata. Ce qui est complètement interdit, Gare de Lyon. Hein. Et vous avez une troisième catégorie de gens, ceux qui sont les plus aisés, on va dire, parmi les SDF, ceux qui s'en sortent le mieux, sont les rameurs. Pourquoi? Parce qu'on monte dans une rame, vous avez tout de suite affaire à une quarantaine, une cinquantaine de personnes d'un coup, vous faites votre speech, hein, alors chacun fait son speech, hein, ça va du « je m'appelle François, j'ai pas d'emploi », jusqu'au type un peu plus recherché, un petit spectacle. Et là, il y a de l'argent à faire. C'est-à-dire que là, vous allez tourner 2-3 heures, vous pouvez facilement gagner 80, 100 euros. Ce qui vous permet de vous payer l'hôtel, de manger au resto, les clopes, la boisson. Mais c'est tous les jours, c'est pareil, hein, parce que c'est tous les jours. Voilà, ça, c'est les petites catégories. Il y en a plein comme ça. Puis après, évidemment, il y a les voleurs, il y a beaucoup de choses pour s'en sortir. Mais pour les gens qui font la manche, c'est les trois principales catégories. Tape-cul, rencontre, la rame.
Gare de Lyon. À cette station, descente à gauche. Doors open on the left.
Chita à sinistra.
Dans le RER et je vois mes petits journaux. Alors attends, je vais te montrer ce que je vends. Hein? Alors j'achète mes petits journaux au matin que je revends après ensuite. Alors il y a le guide des restos, oui. Le guide des restos pas chers ou bien j'ai la balade historique dans les rues de Paris. Ensuite, il y en a un autre, c'est qui est sur les métros, mais moi je prends ces deux-là. Et puis ben voilà, quoi, c'est donc 4,50€ les 10. Et ensuite, j'irai vendre 2 euros pièce.
C'est un truc qui est complètement lamentable, dans la mesure où c'est carrément l'exploitation de la misère, parce que le type, il fabrique ça, il est à son compte, il vous dit à la limite qu'il va vous déclarer, qu'il va vous ci, qu'il va vous ça, mais il n'y a jamais rien, il n'y a pas de déclaration. Vous vous pointez, vous lui achetez son canard, vous, tous les jours, à 45 centimes, ça dépend de l'endroit, il y en a même, ça monte à 70 centimes. Donc vous lui achetez, lui, vous êtes finalement son client. Et démerde-toi, vu que tu n'as pas le droit de le vendre, de toute façon. Tu le diffuses comme tu veux, vous voyez ce que je veux dire?
Et on est obligé de sortir que, allez, 3, 4, 4, 5 journaux dans la main. Parce que ce qui est dans le sac, ils n'ont pas le droit de les prendre. Mais ils ont le droit de vous prendre ceux que vous avez dans la main. Alors, et vous pliez vos journaux, bah, les flics.
Les civils.
Les flics en civil, ouais. Alors, vous faites pas gaffe, vous montez, tac, tac, vous mettez au milieu, talala, talala. Oh, mince, pas de bol. Et là, ils vous font descendre et ils vous prennent ce que vous avez dans la main, quoi. Mais ils n'ont pas le droit de toucher ce qui est dans le sac. C'est pourquoi on en sort pas beaucoup à la fois.
Pourquoi la gare de Lyon depuis 30 ans?
Parce que je suis atterri à la gare de Lyon, je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'ai quitté chez moi, j'avais 16 ans. Et comme j'habitais la gare de l'Est, j'avais mes frères et mes sœurs qui habitaient à côté dans les environs, ils n'avaient pas qu'ils viennent me rechercher. Alors je suis atterri à la gare de Lyon, je suis dit comme ça, je suis très bien. Et après, j'étais à Bordeaux en premier. Je connais très bien Bordeaux. Très bien la rue Sainte-Catherine et tout le Bataclan. Puis bon, bah, je suis resté 7 mois, puis à 18 ans, bah, je suis atterri ici. Ouais.
Je fais la manche parce que bon, bah, pour bien survivre. Hein. Ça, pour moi, la manche, c'est la survie, donc on vit comme ça. Et voilà, donc bon, c'est vrai que c'est un peu gênant par rapport aux gens et par rapport à moi parce que j'ai quand même une dignité. Je suis d'une famille assez importante, hein, donc voilà. Moi j'ai des cousins qui sont placés, mariés, tout ça, et puis moi, bah, le seul cousin qui est dans la rue, c'est moi.
Tu es à la rue depuis quand?
Depuis 15 jours. Ma copine m'a jeté dehors, on m'a dit que c'était fini, et je voulais chercher à comprendre pourquoi c'était fini. Elle a pété un câble et elle m'a dit dehors.
Tu as des enfants?
Oui, deux. Nicolas, il a 10 mois et Linda, 3 ans. Et bon, les enfants bon, sont peut-être pas de moi parce que moi, on a découvert, on a fait des tests de stérilité. Je suis stérile, donc je les ai reconnus à mon nom. J'ai accompagné à l'hôpital, j'ai coupé le cordon ombilical, j'avais une joie. Je disais en moi-même, là, y est, j'ai réussi à faire une vie, quoi, une famille. Et là, au bout de 8 ans, ça fout les chocottes.
Tu es ici depuis combien de temps?
Une année à peu près. J'atterris là suite. Je suis obligé de le dire. Non, j'ai pas trop envie. Non, j'ai pas trop envie d'en parler parce que bon. Ben, j'étais alcoolique et puis martyr à mon permis. Ouais. Donc voilà, je suis tombé dans la misère et puis... Hein. Donc sur Paris, on peut arriver à se débrouiller. Quoi. Ben, douche gratuit, manger gratuit, tout ça.
Tu dors à la gare de Lyon depuis 2 ans?
2 ans que je suis là, ouais. Parce qu'avant j'étais à l'étranger, j'étais en Grèce, travailler. Là-bas, vous avez l'agriculture, le bâtiment, vous faites tout là-bas. Les oranges, le raisin, les régions, c'est les pêches, les pommes, les poires et tout le bazar. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ouais. Et moi, j'ai 56 ans, je suis revenu en 2006. Ici, en France, octobre 2006, j'ai arrêté de travailler, j'ai fini, j'arrête. Je suis maintenant en Grèce, c'est pas pour aller faire un manche.
Tu es ici depuis combien de temps?
3 ans.
Tu dors où?
Là-haut, sur la plaque courante.
Dans la gare de Lyon?
Ouais, à l'extérieur. Mais c'est comme un pio. Tu vois, en bas, là, en bas, je stationne les voitures.
Tu les aides à se garer?
Ouais. Et je leur dis que je leur garde.
Et après, les conducteurs te donnent une petite pièce.
Ouais, voilà.
Ça fait longtemps que tu es à la gare de Lyon, maintenant?
Alors, depuis 92. Ouais, entre-temps, j'ai rebossé. Je m'étais un peu isolé pendant quelques années. Je suis revenu ici parce que c'est un point d'attache. Je connais des gens. Ils sont toujours là, malheureusement. Il y en a d'autres qui ont disparu aussi. Malheureusement également. Et puis bon, on retrouve toujours les connaissances. Donc quand on a un point d'attache, quand on se retrouve dans la situation dans laquelle je suis, ça fait en 5 ans, j'ai eu 3 pneumopathies. La première, elle fait 9 semaines de coma. Je suis sorti, je faisais 44 kilos.
Tu disais que tu travaillais, tu faisais quoi?
Ouais, j'étais barman. Enfin, j'étais serveur. Au restaurant, ou au bar, ou en limonade. C'était mon boulot, quoi.
Tu as toujours travaillé dans la restauration?
Ouais, c'est mon boulot. Enfin, c'était. Maintenant, j'ai plus la force physique pour le faire.
Je suis venu ici. Ah ben alors, par hasard, mais je venais d'un travail pendant un an. Et j'ai travaillé dans une entreprise que j'ai trouvé super bien, mais c'était un CDD. Et le CDD, bon, il n'a pas continué. Et je me suis trouvé ici depuis le mois de janvier de cette année. J'étais vendeur et aussi reaper. Reaper, vendeur, mais je ne me considère pas comme un SDF, non, parce que j'ai autre chose, je veux dire de ma capacité. Je vis, pas un exemple, mais une façon de vivre autrement que dans un domicile, et bon, ça m'a donné une petite idée, et puis tout ça, mais je sais bien que c'est pas à terme, ça peut pas durer comme ça, c'est pas possible.
Tu es là depuis longtemps à la gare de Lyon?
Ça fait 15 jours. Oui. 15 jours prochain.
Tu viens d'où en fait?
Région bordelaise. J'étais dans le foyer à côté de Nantes.
Tu as mangé aujourd'hui?
Un petit peu.
Tu me disais que c'est une dame qui, de temps en temps, va te chercher un sandwich.
Mais elle est passée aujourd'hui et il n'y a pas eu de problème.
Et comment tu fais, par exemple, pour dormir?
Je dors dans la gare, en haut, là-bas. Quelquefois, c'est dur. Il y en a un qui ne m'aime pas et à chaque fois que je le vois, il me met dehors.
J'ai eu 38 ans le 31 juillet, là.
Tu es ici depuis combien de temps?
Dans la gare de Lyon, ça fait actuellement, on va dire, à peu près 2 ans que je suis dans la gare de Lyon. Sinon, j'ai passé pratiquement 4 ans dans la gare d'Austerlitz.
Et en ce moment, tu dors où?
Alors, je suis à l'hôtel. Ça me coûte 42 euros par jour.
Donc, au mois, ça fait...
1302 euros pour les jours en 31 jours.
Et tu arrives à trouver cet argent pour l'hôtel?
Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est soit je les trouve, soit je reste dehors. Donc je passe mes journées à demander de l'argent aux gens, toute la journée, jusqu'à ce que j'ai les 42 euros et plus un peu, plus au moins 10 euros en plus pour manger, quoi. Normal.
Déjà qu'ils vont pisser, en plus si ça marche pas, on va pisser sur les murs, ça se relève. Hein, c'est bon. Après tout.
Je suis le rebut. Je suis celle qui fait peur, honte. Je suis celle qui pue, qui vous prend les narines malgré elle. Suffit juste d'être là. Je sens la merde, la pisse, le vomi, l'alcool, le bitume, le quai de métro, la saleté, le pourri. Je suis celle que personne ne veut voir, celle qu'on oublie, qui détourne les regards, qui accélère les pas. Celle qui vous rappelle vos occupations, votre prochain but, votre dernière course. Je suis celle qui fait peur, car je porte sur mon corps tous les stigmates, aller-retour entre néant et anéantissement. Je suis ce que pour rien au monde vous ne voudriez être. Je suis du mauvais côté, je sente la maladie et la mort. Je sente la décomposition à ciel ouvert. Je suis celle qui s'est arrêtée, je suis solitude, dénouement, manque.
Je vais être grossier, tiens. Allez, ça fait un peu chic de paraître SDF comme ça. Les gens qui ont 40 ans de rue, ils ne sont jamais lavés, ils ne changent pas. Quand ils ont enlevé le pantalon, ils tiennent le bout tout seul, et puis voilà. Je ne me mélange pas avec ces gens-là. J'ai ma dignité quand même.
Nous, on détonne, mais on n'est pas fait pour ça, même si on est de plus en plus. On ne colle pas avec le nouveau bitume des villes et toutes les glaces et les murs des rues transparents. On peut tout voir à travers, que toute la ville entière, elle devient comme une vitre. Et nos carcasses à nous aussi, elles sont transparentes, qu'on y voit complet à travers. Se démonte un crâne de toute sa pensée et tout, il n'y a plus rien à cacher, il y a juste à fonctionner dans le système où on est beaucoup trop. Alors les autres, ils n'ont qu'à disparaître, crever quoi, tant mieux, bon ménage. Parce que vous croyez peut-être que j'ai pas pigé comment ça fonctionne tout le manège. Les villes, où qu'on finit quand même par faire tâche, comme une méga éclaboussure assurée parce qu'on est de plus en plus et que ça va pas s'arranger, bien au contraire. Parce que les pauvres, ça gêne, c'est pas la mode, ça dérange, on sait pas quoi en faire. Ça va pas dans les villes proprettes et puis ça coûte de l'argent pour rien, alors. Alors tout ça, c'est pas naturel, on peut pas les faire disparaître comme ça, sauf les parquets loin, là où les autres, ils peuvent pas les voir et oublier que ça existe. Alors vos lois, là, vos trucs miteux pour la garder proprette votre ville où tout le monde se bouscule, se marche dessus et se regarde à couteau tiré, à part la connerie et le vide, ça c'est votre enfer à vous. Parce que tout ça, c'est que de la trouille, on est votre cauchemar, tout simplement.
S'il vous plaît. Des pickpockets sévissent dans notre gare et nos trains. Nous vous demandons de veiller à vos effets personnels et de ne pas encourager la mendicité ni la quête illicite au profit d'associations. Merci pour votre attention.
Tu as payé un café à ZF qui te l'a demandé et qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Bah en fait, 10 minutes après, il y a la police qui est revenue me voir en disant qu'il fallait pas faire cela. Et que du coup, bah, ils ont donné un PV au SDF qui était de 73 euros, un truc comme ça. Pour un café à 1,20 €.
Ici, ce qui se passe, à longueur de journée, vous avez une annonce qui passe toutes les demi-heures, on va dire, qui vous explique qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas inciter, etc., etc. Et quand vous avez la malchance de vous faire prendre en flag, c'est-à-dire qu'une personne vous donne une pièce. Ils le font pas tout le temps, mais s'ils ont envie de vous emmerder, ils viennent vous voir, ils récupèrent l'argent, s'il est encore là, ils le rendent à la personne, et éventuellement vous prenez un PV. Parce que la mendicité est interdite.
Alors qui prend un PV ?
Le type qui a fait la manche, évidemment, voilà, pas celui qui a donné.
Pour 1,20 € de café, c'est quand même dégueulasse. Quoi.
Ouais.
73 euros à côté d'un euro 20, il y a quand même une large différence. Quoi.
Je voulais un sandwich, j'ai envie de manger un truc. Je demandais une pièce pour manger. Hein, donc il y a un jeune homme, il me donne 2 euros. Manque de bol, il y a la police qui passe à ce moment-là et qui voit la chose. Et là, ils me disent, vous rendez les sous au monsieur, là, au jeune homme. Je dis, ah bon, puis le jeune homme, il n'a pas eu le temps de réfléchir à dire, au pire, je la connais, la dame, ça aurait pu se faire. Bon, je lui ai rendu sa pièce. Contrôle d'identité, vas-y, fouille, enfin la totale.
as mangé un petit peu aujourd'hui?
Oui, ce matin.
Où est-ce que tu dors?
Du côté du 18e. Ouais.
Tu as trouvé un coin où tu es tranquille?
J'essaie de me débrouiller quand même, de trouver un endroit tranquille. Je vous protège un petit peu parce que des fois c'est un petit peu dangereux, quoi. Alors bon, voilà. J'essaie de trouver des endroits un peu tranquilles où il n'y a pas beaucoup de monde parce que.
D'accord.
Je méfie aussi, quoi. Ça peut être dangereux dehors.
Tu t'es jamais fait embêter quand même?
Pas encore. Mais...
Et ça fait depuis combien de temps que tu es à Paris?
Ça fait quand même 6 mois que je suis dehors.
Avant, tu dormais où?
Avant, je suis dans la famille, alors bon, c'est pas pareil. Puis ils sont partis, ils habitaient du côté de la ligne, ils sont partis.
Oui.
Et bon, moi, je suis restée quand même sur Paris parce que j'avais un travail ici avant. La boîte a fermé aussi. Mais j'ai dit, bon, je reste quand même sur Paris, j'aurais plus de chances de retrouver un emploi ou quelque chose. Voilà.
Et qu'est-ce que tu avais comme travail avant de le perdre?
Oui, bricolage.
Oui. Quel genre de...
Vendeuse. Voilà. Enfin, je faisais un peu tout, les rayons, la caisse, un peu tout.
Et là, en ce moment, tu cherches toujours en tant que vendeur?
Je pense retrouver, mais bon.
J'entends la retraite, ils font les papiers de retraite, ils font toujours des erreurs de papier parce que le patron m'a viré. Alors, il n'a pas fait les papiers.
Ah bon?
Oui,
c'est
au restaurant de PTT.
Ah bon?
Oui, c'est pas le premier patron, c'est l'autre patron qui m'a viré, il ne m'a pas fait les papiers. Alors ça fait que j'attends longtemps. Et
combien de temps il faut attendre?
Un an.
Un an?
J'ai entendu un an. Oh oui, il ne m'a pas fait pour avoir la retraite.
Et dans un an, vous allez pouvoir toucher la retraite?
En faisant la manche, là, je vais la toucher bientôt, parce qu'ils attendaient que j'ai 65 ans. Et je vais l'avoir le 31 août, 65 ans.
Et voilà. Après, c'est bon.
Là, je suis tranquille.
Et là, en ce moment, vous dormez où, alors?
À l'hôtel.
On dépense, quand on est dans notre situation, 3 fois plus qu'un smicard. Vous savez combien on dépense tous les mois pour survivre? Là, ça va, on a trouvé un hôtel pas cher. 30 euros par nuit. Le bonheur. À une époque, c'était 48 la nuit. Faites les comptes sur 30 jours. Rien que pour dormir. En sachant que dans les hôtels, on ne peut pas cuisiner. Interdit. Donc, faut manger dehors. Donc, qui dit manger dehors, quand vous avez des problèmes comme moi, ouais, nous, on a été toxicomanes pendant longtemps, on n'a plus beaucoup de chicots, tu vois, les sandwichs interdits, donc c'est resto, quoi. On se fait tous les soirs, normalement, c'est resto. Alors, tu comptes resto, tu comptes les clubs, tu comptes la piole, tu comptes les canons pour se donner du courage, c'est 3000 euros par mois, quoi. Alors que, si on nous disait, bah tenez, voilà un appartement, ça va vous coûter 500-600 euros par mois, on est les plus heureux, non? Voilà, donnez-nous un appartement, mais simplement, il n'y en a pas d'appartement. Et on a une situation à la con.
Pour un moment, moi, j'appelais, je téléphone, alors on me disait, pour oui, pour vous, madame, vous pouvez. Ouais. Mais alors, et mon doudou, il fait comment? Ah bah non. Alors je dis, bah non, bah, je dors dehors avec lui, alors tant pis.
La plus grosse horreur qu'il puisse y avoir à la gare de Lyon, c'est d'être en couple, parce que je suis le seul. Donc comme je suis le seul, bah, je me prends toutes les remarques, elle aussi. Dès que l'alcool a fait son effet, moi je suis un macro, parce que j'ai une copine qui va vendre ses journaux, et puis elle c'est une pute. C'est pour ça qu'on n'est jamais ensemble. Les gens des fois même se posent des questions. On rentre jamais ensemble, on boit jamais ensemble, on est chacun de notre côté. Comme ça il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de « je te fais un bisou », de « je te fais un câlin », c'est interdit ça. Mais il y a du viol collectif sur la place, hein. Il y a une fille qui est... pas là, malheureusement. C'était vraiment le vite-couille, mais de chez vite-couille, quoi. Ils se pointaient à 4-5 et ils faisaient la queue chacun leur tour. Et la pauvre fille était là, elle n'avait pas le choix. Hein. Des trucs horribles comme ça. La police est au courant, mais ne me faites pas croire qu'ils ne sont pas au courant, ils le savent. Jamais ils interviennent. Bon, évidemment, elle ne porte pas plainte. Dès qu'il y a une femme qui est là, il y a des bagarres. Dès que vous avez une fille qui n'est pas d'ici qui s'installe, vous avez les mouches qui arrivent et ça finit, les mecs se battent, la gonzesse se barre.
Comment ça se passe avec les autres SDF ?
En tant qu'SDF ? Bah nous, on est à deux, avec mon collègue, là. Il est d'origine maghrébine. On s'entend bien, ça fait, je vous dis, 34 ans qu'on est ensemble. On s'est connus depuis l'âge de 16 ans ici à la gare de Lyon. Et puis, bon, on s'est toujours côtoyés, on a toujours resté ensemble parce que c'est un grand garçon. Et puis, bon, ben, il n'y a pas de problème, question monétaire ou n'importe quoi. S'il y en a un qui est dans l'ennui, il aide à l'autre, l'autre, c'est vice-versa, et on s'arrange entre nous. J'ai vécu avec des hommes, j'ai vécu avec des femmes, mais j'ai jamais eu d'enfants.
J'ai un fils, il va avoir 20 ans, là. Il est à Sao Paulo. Là, de temps en temps, je lui envoie une petite bafouille. Mais bon, ça reste comme ça, hein. C'est bon, moi et sa mère, on s'est embrouillés. Bon, ouais. Elle est partie avec le gamin, quand elle était en cloque, elle est repartie avec.
Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois ?
Ouais, 15 ans. Je suis allé là-bas.
Ça te manque ?
Je me suis fait depuis le temps.
Tu as des enfants ?
Ouais. Trois.
Ils sont où ?
Ouais, il y en a deux qui travaillent sur Marseille. Il y en a peut-être qui sont partout au Congo, je ne sais pas où. Puis ma fille, elle est à Pontoise.
Et ils ont quel âge ?
Mon premier, 36. Passé.
Tu les vois toujours ?
Ouais. Non, mais moi... Il faut que moi, ils débrouillent. Ils travaillent, ils ont du boulot. C'est... Il ne faut pas qu'ils construisent pas. Hein.
Ils te manquent pas ?
Non. Moi, je sais que moi, hein. Moi avec mon père, c'est pareil. Hein. Moi, quand je me suis marié, je ne me suis pas occupé. Je n'avais pas besoin de papa un moment derrière moi. Hein. Je me suis marié, j'étais à l'armée. Quand j'étais à l'armée, là, j'avais déjà un gosse. J'ai sorti de l'armée, j'ai travaillé en culture. Et papa, maman, moi, je n'en avais pas. Moi. J'ai fait ma vie, c'est tout. J'ai fait ma vie tout seul. Mais alors, mes enfants, il faut que moi, ils se débrouillent. Il ne faut pas qu'ils comptent sur moi. Puis moi, je compte pas sur eux non plus. C'est ça la vie. Je suis 10 fois grand-père. Je m'en fous, c'est des bons.
Ah, il est beau.
Et voilà ma pupille.
Oh là là, ils sont beaux, tes enfants.
Ben tiens, qu'est-ce que tu crois ?
Bah ouais, carrément, ils ont quel âge ?
16 et 17, je crois, ou un peu plus, j'en sais rien. Enfin, ils ont un écart. Enfin, ma fille a eu son brevet, et fanfaron, rien du tout. Alors lui, à la rentrée, je vais y botter derrière.
Et ça fait combien de temps que tu les as pas vus ?
Il y a un mois, à peu près. Par contre, j'ai des très mauvais rapports avec sa femme. Très mauvais divorce, et puis bon, c'est une partie cachée, ça. Pas... Allez, on passe.
Et ils habitent où maintenant ?
Région parisienne.
Ils savent que tu es ici ?
Oui, tout à fait, oui. Je leur ai pas caché et je leur ai dit maintenant vous jugez comme vous pensez. Et ils m'ont dit, ouais, écoute. Ben, je leur ai dit, j'ai déconné et puis voilà. C'est pas grave, papa. Ben si, c'est grave.
Ils sont déjà venus par ici ?
Florian, oui. Marine, non, je veux pas. Je veux pas qu'elle voie ça. C'est intéressant d'avoir une gare, mais pas le milieu SDF, quoi. Puis je pense que ça risquerait peut-être un petit peu de la... Pas la choquer, mais je sais rien. Une fille, c'est beaucoup plus délicat qu'un garçon. Un garçon, on peut s'arranger, il n'y a pas de souci, pas près. Quand il m'a revu ici, il m'a envoyé un texto, il m'a fait « Papa, ça m'a fait plaisir de te revoir. Bisous. » Donc je sais pas. Moi, j'ai pleuré comme une madeleine, lui, je ne sais pas. Mais... Et ma fille, c'était pire encore. Parce que je la voyais pas si grande, quoi. Ah oui, bah, c'est une petite femme, hein, et puis voilà, quoi.
assurer votre sécurité, la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Des étiquettes sont à votre disposition dans les kiosques accueil SNCF. Signalez-nous tout colis ou bagage qui vous paraîtrait abandonné. Merci pour votre vigilance.
Je veux juste être peinarde et que dans ma boule s'arrête de tourner à vide comme ça. J'ai été les bagnoles et les gens. Le premier qui s'approche d'étale, y a rien à voir, circuler. Parce que moi, ça fait trop mal, j'y arrive pas. J'y arrive plus ce soir. J'y suis jamais arrivée à être comme les autres. J'ai jamais été, moi, dedans, dès le départ, dans votre cercle, dans la matrice. J'ai toujours été pas comme les autres, à part, et j'ai jamais pigé pourquoi. Je suis pas comme tout le monde, c'est tout, basta, et c'est trop tard, le temps est écoulé. À propos de matrice, qu'est-ce qu'elle peut bien faire, ma maternelle, en ce moment? La dernière fois, ça doit bien faire une bonne quinzaine d'hivers que je l'ai vue. Mais ça s'est mal passé, comme d'habitude. Elle a dérapé, j'ai tout envoyé balader. Même la dinde a valnagué dans la pièce. Ça lui fera un bon souvenir. Même sur sa tombe, j'irai pas.
T'as le journal aussi? Ah oui, t'as récupéré le journal aujourd'hui.
Ah bah celui-là, je paye pas. Hein. C'est le Figaro.
Bon. Ça, et ça, tu le trouves où, en fait?
Je le trouve parce qu'il est par terre.
Parce qu'il est par terre.
Ouais, mais il y a...
Il y en a un paquet, alors.
Ouais, bah... Et la chose... le lundi, j'ai Figaro Madame et Figaro le chose.
En plus Ok, bon. Ben, écoute,
comme je ne veux pas les vendre à ailleurs pour me monter en ménage, hein, ça sert à rien.
À bientôt.
Ouais, bah, s'il pleut pas, oui.
Il y a un truc qui est phénoménal, c'est que moi je suis RMI, donc je ne touche pas beaucoup d'argent, 400 et des mois de boîte. On m'envoie des papiers pour me demander si je veux prendre un crédit, par exemple, à taux à 30%. Moi je voulais qu'ils me fassent un crédit, au même taux qu'ils ont fait à Bernard Tapie. Et je ne m'appelle pas Nanar. Mais ce mec-là. Il est tombé par terre, à chaque fois il se relève. Moi je tombe par terre, je me lève jamais. Moi. Mais croyez-moi que si j'avais le même tempérament que lui, je l'aurais fait.
Tu voulais un crédit pourquoi?
Juste pour les embêter.
Le matin je me lève. C'est très rare que je prenne un café parce que je gerbe sinon. Je bois un coup, deux coups, après ça va mieux. Je me réveille comme on dit quoi. Là, j'ai même pas fait mes jeux sur le journal aujourd'hui. Alors que d'habitude, ils ont fait à ce temps-là. Je me suis levé tard. Eh ben, on démarrera la journée plus tard. C'est pas grave.
Je vais dire la gare, je dis un peu que c'est mon appartement. Quoi. Ici, c'est ma salle de bain, là, c'est ma cuisine, là, c'est la salle à manger. Donc, je veux dire, si tu viens faire la quête là où je suis... Quelque part, ça me dérange vraiment, quoi, parce que bon, je veux dire, la personne me casse un peu mon business, quoi, donc voilà, ça peut être source de conflit, quoi, c'est clair. Mais généralement, ça se passe plutôt pas mal, quoi, voilà, je dis à la personne, bon, bah écoute, voilà, essaye de te mettre plutôt par là, et moi, je suis là de ce côté, donc voilà, au moins, on se monte pas dessus, et on branche pas les mêmes personnes deux fois, trois fois, voilà, ça évite de prendre la tête aux gens et qu'on se prenne la tête aussi ensemble, quoi. Je leur dis la vérité. Je leur explique que voilà, je suis à l'hôtel, je suis à la rue, je suis à l'hôtel et je leur demande un petit peu d'argent. Quoi. En général, je demande 3 euros par 3 euros. Voilà. J'ai quand même des habitués parce qu'au bout d'un moment, les gens les voient une fois, deux fois, trois fois, puis après on finit. C'est soit ça se passe bien, ou à la limite on se voit, on sait même une relation un peu d'amitié quoi, avec quelques personnes quoi. Ou alors sinon c'est carrément on se fait jeter quoi. C'est, voilà. Les gens bon, ils se disent oh là il est encore là, il m'a menti la dernière fois, voilà quoi, c'est soit l'un soit l'autre. La phrase qui revient le plus souvent c'est du genre mais t'as qu'à aller bosser, va bosser, va travailler, voilà c'est la réaction là, on va dire qui touche le plus quoi, qui fait le plus mal vraiment quoi.
Il y a une personne que je vois tous les dimanches, je la connais très bien, et puis une personne qui sont gentils, ça c'est vrai, j'admets. Pourtant, c'est les gens de la police, les gendarmes, les CRS, puis la police nationale.
Eux, ils sont gentils.
Oui, ils sont gentils, ils nous connaissent, on fait vraiment mal, on mende, on vole pas. Ils nous connaissent depuis des années, donc il n'y a pas de problème. Et puis, quand ils ont des restes, ils viennent nous les apporter.
Comment ça se passe pour toi avec les services de sécurité ici? Qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Ici dans la gare, j'ai pas de problème avec eux. Tant que vous les emmerdez pas, vous emmerdez pas. Faut pas les provoquer, faut pas les... C'est toujours pareil, hein. Faut voir, faut respecter leur boulot. Et si vous respectez leur boulot, eux, ils vous respectent aussi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même au niveau des flics, il n'y a aucun souci.
Comment ça se passe avec la police?
Non, il n'y a rien. Ils sont gentils avec moi. Parce qu'ils me connaissent, moi. Mais il y a des fois, c'est des employés, des empoirés.
Pourquoi?
Parce qu'ils tapent les gens.
Ils tapent qui?
Ceux qui sont alcooliques, tout ça.
Tu as déjà vu ça?
Ouais. Mais c'est pas bien.
Toi, tu t'es jamais fait taper?
Si, ça m'est arrivé. Mais ils l'ont pas fait exprès. Ils l'ont pas fait exprès parce que... Et ils savent qu'ils me connaissent.
J'ai été agressé il y a quoi? Il y a un mois de ça. Par un Français, un type, un jeune à nouveau. Ce type m'a agressé, là, les flics sont venus, les pompiers sont venus. J'étais par terre, parce que les côtes cassées, personne n'est venu me voir. La police n'est pas venue me voir pour me dire, monsieur, quoi ou qu'est-ce? Non. On m'a vu, on m'a reconnu, on a dit, c'est bon. Lui, ça va. Il ne marche pas avec nous, on n'intervient pas. C'est comme ça.
Faut toujours avoir un couteau sur soi, quoi.
Tu t'es déjà défendu?
Mais je crois, du temps que je dors ici, moi là-haut, j'ai jamais été emmerdé là-dessus, à ce sujet-là. J'ai jamais été emmerdé, tout ça, puis je sais pas tout ça, il y a des gens qui me connaissent aussi.
Moi, je suis vraiment tout seul, moi. Je suis assez solitaire déjà à la base et... De toute façon, il n'y a pas trop d'entraide entre les gens qui font la manche. Sauf quand on est dans un petit groupe et que voilà, les gens restent entre parenthèses soudés, quoi. Puis bon, c'est souvent une entraide sur l'alcool, donc il y a beaucoup de gens qui boivent. Moi, personnellement, je bois pas. Et donc les gens s'aident pas trop, hein, de toute façon.
Ici, il faut pas être bourré. Enfin, tout le monde est à l'affût, en fait. Comme là, c'est le RMI. Ils ont touché leur argent, donc ils vont rentrer tous blindés avec plein de pognon dans la poche. Et là, c'est facile. Une claque dans la gueule, le mec qui tombe, tu fais les poches, quoi.
Ça t'est déjà arrivé?
Jamais, non. Non. De toute façon, j'ai jamais d'argent sur moi. Je fais confiance à mon banquier, et je ne devrais pas.
Ce soir et demain, vous allez avoir la bande de racailles qui va venir racketter les Rémy. Voilà. Ils savent donc que les gens vont toucher, donc ils s'organisent. Et donc, évidemment, le type qui a galéré pendant tout son mois, il attend ce soir à 10h, vous faites les distributeurs, vous allez voir tous les SDF avec leurs cartes retirer leur RMI.
Et ces mecs-là, ils vont se cacher. Parce que ceux qui ont le malheur de mal se cacher, ils se font tomber dessus et ils se font tout prendre. Il y en a même qui se sont fait torturer. C'est dommage, j'avais un ami, il était là tout à l'heure, il est parti. Si vous revenez, je m'arrangerai avec lui pour qu'il soit là, il vous expliquera ce que c'est que 8 heures de torture par des types de cités qui débarquent ici pour racketter du SDF. S'il a le malheur de l'ouvrir, il prend des coups, quoi. Et puis, de toute façon, il va donner quand même ce qu'il a dans les poches. Et c'est comme ça tous les mois, depuis toujours. Et bim, et bam, et bim, pendant 8. Le mec, depuis, met plus les pieds ici. Alors que c'était un pilier de la gare, il a trop peur.
Il a pu porter plainte ?
C'est lenté ou quoi ? C'est la loi du silence, vous portez plainte, vous êtes mort. Il y aura toujours quelqu'un pour venir vous couper la tête la nuit. C'est pas bon. Non. Ici, c'est tout se fait en silence. Vous appelez pas la police pour quoi faire. De toute façon, elle ne fera rien.
La rue, pour moi, c'est une vraie jungle. Soit tu t'en sors ou soit tu crèves. Moi, j'ai peur et... j'ai peur de revenir dans la rue et c'est dur en moi-même. Vu que j'avais fait une famille.
D'après vous, combien ça dure, hein, Rémi ? Vous repassez dans 4 jours. Vous verrez les mêmes, là. Vous allez les voir, ils n'auront plus rien. Ou ils seront fait racketter, ou ils auront tout dépensé. Et pourquoi ils auront tout dépensé ? Pour ne pas se faire racketter. On mord le chat qui se mord la queue. Une éponge qui se dessèche là, tout le mois elle se dessèche. Tout à coup il y a une arrivée d'eau. Alors elle se remplit quoi, elle boit toute l'eau d'un coup, hein. Vous voyez, puis le temps de sécher tout le mois qui reste, et ainsi de suite. Et ça fonctionne comme ça quoi. C'est un battement de cœur mensuel. on boit, on s'assèche, on boit, on s'assèche. Mais je vous dis, beaucoup dépensent pour pas se faire prendre. Parce que si vous gardez de l'argent sur vous, dans la nuit on va vous le prendre, autant le dépenser. Et donc les gens ils font 3-4 jours et ils ont plus un rond.
Mon petit gobelet, je te fous quelques petites pièces dedans. Mais oui, madame, j'en connais moi aussi des trucs. Au cas où les bourgeois chics, ils comprennent pas à quoi ça sert. Et quoi, c'est quoi ça ? J'ai quoi, moi ? Un truc bizarre sur la tronche ? Pas la peine de regarder comme ça. Ouf, j'ai crevé. Que des gens. Des gambettes et des panards avec des pompes. C'est tout ce que je ziote depuis ce matin. Mais qu'est-ce qu'elles vont vite ? Mais où c'est qu'ils courent comme ça toute la sainte journée ? J'ai même pas la force de lever mes yeux, les globes. De là où je suis, c'est tout ce que je vois. Peut-être pas si mal, après tout, ça m'évite de voir comment ils regardent. Et puis encore que des jambes, des futs, des collants, des jupes. Ils pressent le pas, regarde-les. Ils y sont dans le monde, ils y sont dans le temps, les courir après comme des dingues.
Je suis Romani, j'ai habité en Bucarest. Ici en France, c'est plus riche comme la Romani.
Et vous êtes toujours à Gare de Lyon depuis 3 ans ?
Oui, je vendais ici à Gare de Lyon tous les jours, je vendais le journal Itinérante.
Vous avez des amis ici ?
Oui, j'ai beaucoup d'amis ici, en gare de Lyon. Tout le monde est ami. Et en général, le français. En général, le français.
Vous dormez où? C'est sous le pont, c'est où?
C'est sur le pont.
Sur les cartons.
Ah oui.
C'est...
On voit la sortie du boîtier là. Oui. Et puis les cartons, on est dehors là-bas.
Ah ouais. C'est là où il y a toutes les voitures qui passent toute la nuit.
Pour moi, c'est pas grave, il y a un bruit de voiture.
J'ai remarqué que bien souvent, on me demandait, vous êtes français, monsieur?
Oui. Les Polonais sont pas trop embêtants, ils picolent, ils vont la gueule entre eux.
Le gros problème dans la gare, c'est les Roumains.
Nous, on reste entre nous.
Les Français, en général, nous, même autres que les Français, on est dans notre coin, on dort, on se repose, on essaie de les embarquer comme on peut, et c'est pas évident.
Parce que dès que les Roumains sont là, la police ferroviaire a tendance à plus tourner.
J'étais dans un coin, tranquille, peinard, et en fait, dans la nuit, on m'a discuté.
C'est des gens qui nous prennent tout.
Entre nous, il n'y a pas de souci. Nous, on est un petit temps fermé, là.
Pour moi, ça fait que...
Et ils sont arrivés à 7 ans, tout ça pour une place que notre copain avait.
Parce qu'il y a beaucoup à la gare de Lyon, de Roumains polonais, et ça peut pas être des Français.
Et mais pas content, il est parti, il était chez ses copains, ils sont arrivés à 7 avec les ceintures roulantes
et tout ça. Tout ce qu'on avait comme avantage avant, les vestiaires et tout ça, il n'y a plus rien.
Mais nous, entre nous, on s'entraide, hein, il n'y a pas de soucis. Hein. T'as pas de club, tu veux les clubs, t'as pas à boire, on peut en avoir, t'as pas à bouffer, on te donne à bouffer.
Et qu'on a dit, le copain il est là, t'as pas à lui prendre sa place.
La police ferroviaire a tendance à plus tourner. Donc eux ils font pas de différence entre les Roumains, les Français ou n'importe quoi. Dès que tu vois quelqu'un faire la manche, c'est dehors, tu dégages et on te met une amende en plus.
Les flics, c'est des potes, hein. Par contre, je leur ai expliqué qu'il faut éviter de me serrer la main, quoi. T'as les Roumains à côté, ils vont serrer la main à flic, ça y est, c'est le ballon, quoi.
Voilà, ou alors ils sortent une lame, ces gens-là, voilà comme ça se passe.
Et là c'est ta peau, hein. Parce qu'eux ils font pas de pitié, hein, t'es bon.
Vous avez besoin de vous habiller. Ils sont passés. Ils font la queue, ils sont à 50. Hein. Alors c'est même pas la peine d'y penser.
Ils sont où les vestiaires?
Le plus beau avant c'était l'église d'Auteuil, dans le 16e. On vous donnait que du neuf. J'y suis allé une fois, il y a 15 ans. On m'a filé à 3 quarts au Loden. Dans la poche du manteau, il y avait un billet de 500 francs et la carte de Thierry Lhermitte. Avec les remerciements de monsieur Thierry Lhermitte, et bon courage.
Pourquoi c'est pratique la gare de Lyon?
On connaît l'endroit, on connaît les gens. Et puis quand on a besoin de quelque chose, on sait à qui s'adresser.
Tu fais jamais la manche?
Si, bien sûr, tous les soirs. Alors bon, des fois c'est très bien, mais des fois c'est pas bon. Mais bon. La manche, c'est pas compliqué, il faut s'adresser aux gens, il faut leur parler poliment et gentiment. C'est tout. Parce qu'il y en a qui sont très agressifs quand ils font ce genre de choses. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire.
La plupart, c'est positif. Et quand c'est négatif, ben je dis oui, monsieur, vous avez raison. Ou aux personnes concernées, j'ai dit oui, vous avez raison. Et je m'en vais. Et j'ai du respect aussi pour eux. Normal, ils ne peuvent pas tout supporter toute la journée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, moi aussi. Hein, moi, peut-être les gens ne savent pas ce qui se passe dans ma tête, mais moi aussi, au niveau des jeunes, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas savoir, c'est pour ça qu'il y a du respect.
Bah, vous avez des gens qui sont très solvables, des gens qui sont gentils quand même, parce que ça, il faut l'admettre, hein, qui sont sympathiques. Et puis, il y a des gens qui sont un peu agressifs, quoi. Mais il y en a qui ont des problèmes aussi, hein, faut comprendre. Hein.
En fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Je veux dire, quand on commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Quand j'ai commencé à faire la quête, je me suis dit, ouais, bon, ça va durer quoi? Ça va durer 2-3 mois, 6 mois puis ça va s'arrêter, de toute façon, je vais passer à autre chose. Et puis en fait non. C'est la première fois que je reste aussi longtemps à la même place, au même endroit. Parce que depuis l'âge de 17 ans, j'ai passé ma vie à bouger, à parcourir un peu toute l'Europe, à bouger un peu de partout. Et du jour au lendemain, je me suis posé et je ne bouge plus. Je ne décolle plus. Donc c'est à cette époque-là que le courant techno a commencé à arriver sur la France. J'ai fait le son de la première Borealis, des premières grosses soirées qu'il y a eu dans le sud de la France, sur Montpellier. Voilà, donc au début c'est clair, j'en vivais pas trop quoi, mais au bout d'une pratiquement une dizaine d'années, je commençais vraiment à en vivre. Je me suis fait voler mes disques il y a quelques années de ça, et ça a été le départ de la descente quoi. Parce que c'était quand même mon fonds de commerce, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans mon outil de travail, et voilà quoi, ça a été la descente. Donc, au moment où je me suis fait voler mes disques, je commençais vraiment à être connu, reconnu on va dire, et vraiment je commençais à avoir des bonnes adresses, des bonnes dates. J'avais genre un mois avant de me faire voler mes disques, j'avais joué avec Laurent Garnier quoi. Ça a été très dur quoi, vraiment, les 6 premiers mois, ça a été vraiment la dépression quoi. J'en étais malade tous les jours quoi, c'est clair quoi. Je me réveillais le matin, je me disais ça y est, je peux même pas écouter un disque, je peux même pas entendre un son. Ça a été vraiment un choc quoi. Et bon, ça a été aussi le déclencheur de faire la manche aussi, parce que voilà, je pouvais plus vivre de ma passion, et même si je travaillais un peu à côté, je faisais beaucoup d'extra dans la restauration. Et donc du jour au lendemain, j'avais plus la motivation quoi, voilà. Plus envie de rien faire du tout. Donc voilà. Ce qu'il faudrait, ce serait un petit miracle que je réussisse à trouver une bonne centaine de vinyles, ou même une cinquantaine seulement, de vinyles un peu introuvables, et que je puisse recommencer un peu à faire des soirées, quoi, mais c'est pas évident.
Tout le monde a des moyens, des qualités, tout le monde. Simplement, quand on se retrouve là, comme ça, sur le bout de trottoir, sur le muret, comme les huîtres, vous refermez quoi. Et la perle est à l'intérieur peut-être, on sait pas. Et le problème il est plus là je pense. Et je vous dis, il y a plein de gens ici, je suis persuadé, qui sont des gens pas cons, qui ont certainement une élocution meilleure que la mienne, mais qui malheureusement, par leur situation, par leur état, ne le montrent pas. Parce que tout le monde se cache. Vous savez, quand on se retrouve dans la misère, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se mettre dans son coin. Et de ne pas se montrer, parce qu'on a honte, on a honte. Et après, vous avez affaire à des types qui, voilà. Mais en réalité, ils ne sont pas du tout ça. Ça a été animé par la surconsommation d'alcool, de drogue, de misère, de malheur, de tristesse, de tourments, de tout ça, tu sais, ça bouge le cerveau. Et les gens sont là comme des cons, quoi. Mais ce ne sont pas des cons.
Quand je pense à mes enfants, c'est eux qui me donnent la force d'y arriver. Je m'en donne la force et j'y arriverai. Actuellement, j'ai ma soeur qui va me refaire mes CV bien comme il faut. Je me déplace, j'ai pas peur de me déplacer, de demander s'il y a du travail. Même pour faxer des CV, je vais chez ma mère. Donc voilà.
C'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Hein. À n'importe qui, même le plus responsable de sa vie, ça peut arriver de se retrouver un jour sans plus rien. Et puis voilà, certaines fois peut-être dû à une dépression, dû à certaines choses que nous trouvons dans la vie.
Ce qui m'arrive moi là, m'est arrivé depuis un an là, je souhaite ça à personne, même pas vos pires ennemis. Parce qu'on est dans la galère et c'est très facile de descendre, très difficile de remonter. Et dans ces cas-là, t'as plus de copains, t'as plus d'amis. Tout le monde te ferme la porte au nez. Quand on te voit, on change de trottoir, on tourne la tête. Hein. Même dans ma propre famille, les gens qui tournent la tête. Ou ça répond pas au téléphone. Ou... C'est bien toi. Ah, j'ai 4 frères et une sœur. Eux, quand ils ont été un petit peu dans la panade, je les ai un petit peu aidés. Je suis l'aîné. C'est le rôle de l'aîné d'aider les petits frères et les petites sœurs derrière. Mais quand l'aîné il est dans la panade, qui va aider le grand frère?
J'ai eu une assistante sociale. Elle veut bien me donner un appartement. C'est pas un problème, mais j'en veux pas. Comment voulez-vous que j'assume un appartement avec le RMI? Et puis, même qu'on me donne l'allocation de logement, je veux bien, mais ça ne me suffit pas. Il faut que j'attende 65 ans pour avoir le fonds de solidarité, comme on appelle, hein, et puis avoir un petit studio, quelque chose qu'on pourrait prendre à deux avec lui, et puis on s'arrangerait avec la caisse d'allocation familiale, mais là, pour l'instant, on ne peut rien faire.
Tant que je ne fais pas des bels hébergements, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais, je disais, il y a 20 ans, je gagnais 25 000 balles par mois. Hein. Maintenant, ils gagnent combien, les gars, dans la restauration? Allez voir, vous avez pleuré. Pour ça, je me fous la peine de bosser, je vais faire la manche.
Tu touches le RSA ou...
Non, je touche seulement la Cotterêt.
Est-ce que tu as travaillé?
Ouais, avant, ouais.
Qu'est-ce que tu as fait comme travail?
Routier et chauffeur de car.
Pourquoi tu travailles plus?
Parce qu'ils m'ont enlevé le permis. Parce que j'ai des crises d'épilepsie. Je tombe sur la tête et tout.
Après, tu as recherché du travail?
J'ai cherché, mais ils ne m'ont pas donné. Ils n'ont pas voulu me donner.
Hier, tu as eu des bons résultats?
Ah oui, j'ai eu des bons résultats. C'est étonnant pour un mec de la rue de rien avoir, quoi.
Côté boulot?
À côté boulot, là, avec les justement prises de sang et tout, comme j'ai pas de gamma, là, c'est un zéro, tu vois. Voilà. Je vais pouvoir aller chercher mon permis à nos gens, puis terminé. Comme avec mon frère, lui, il travaille dans une société de transport de boissons, chose qu'il fallait pas faire. Mais bon, j'ai possibilité de trouver du boulot dans cette boîte-là, donc voilà, j'ai bien.
On n'est pas un sac de moules à la gare de Lyon, c'est un plateau de fruits de mer. Il y a des crabes, il y a des moules, il y a des huîtres, il y a tout là-dedans. Alors, on fait le tri et on propose. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas loin. Il y en a, ils sont peut-être en bas de l'escalier. Mais il y en a qui viennent à peine de tomber, ils sont encore à deux marches. Ceux-là, si on leur tend la main, on tire un coup, ils s'en sortent. Non, on les laisse, on les abandonne, ils sont livrés à eux-mêmes et ils descendent l'escalier. Et quand on est en bas de l'escalier, pour remonter, ça fait. On remonte pas un escalier du jour au lendemain, tu vois.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le trajet est immédiatement imminent. Dans le 21, départ 16h46 à destination. Allez, tu peux fermer les portes, s'il te plaît.
Incroyable.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. La SNCF vous souhaite un agréable voyage.
C'était la face A de l'atelier de création radiophonique, Bribes sans abri, un essai radiophonique de Franck Larose, Aurélie Julia et Charles-Éric Péard. Texte d'Aurélie Julia, à ciel ouvert. Composition musicale de Charles-Éric Péard, alias Sepp Sound. Avec la participation de Franck, Sylviane, Robert, Jackie, Marie-Chantal, Bernard, Martial, Benoît, Michel, Cédric, Constantane, Jean-Noël, Kamel, Laurent et Jacques. Attaché d'émission, Anne-Vanessa Prévost. Mixage, Bernard Laniel. Une réalisation, Tanach Schmutz.